Ok, le Rav Kook père, il arrive en Eretz Israël en 1904. Ok, Rav Kook père, il arrive en Eretz Israël en 1904. Quel mois, quel jour, vous savez?
Non.
Alors, je vais vous dire, c'est Kafret Nia. Kafret Nia. Qu'est-ce que ça vous rappelle au Kafret Nia?
Ah, c'est le 15 hier, c'est bah
Le 28 hier, Kafret hier, c'est le 28 hier.
bon.
C'est le Yom Yerushalayim. C'est bien? Le Yom Yerushalayim. Non, qu'est-ce qui est fou? C'est que le Rav Kook, fils, celui qu'on a vu hier, celui qu'on a parlé hier, qui a dit Yerushalayim, etc., il se pose la question, il dit, mais comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu nous a ramenés en Eretz Israël, parce qu'il est monté avec son père, il nous a ramenés en Eretz Israël à cette date-là. Comment c'est qu'il nous a ramenés à cette date? Cette date, elle doit être tout à fait particulière. Et en effet, en 1967, le Kafret Iyar, on a le Rav Kook, et on a le Kafret Iyar, la date à laquelle le Rav Kook a fait son aliyah, c'est la libération de Yerushalayim. Ok, tout est en rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi l'union par rapport à ça. Attendez, hier, j'ai montré. C'est à vous, on a vu ça, je sais. On a vu le Rav Kook, le père? On a
Oh,
vu.
okay.
Le père, on a vu ou pas? Oh, zut! Attendez deux secondes, on va voir tout de suite. Non, on va pas voir tout de suite. Bon, en tout cas, donc c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que... Ah, dommage. Secondes. Ok, maintenant regardez. Quand le Rav Kook qui monte en Eretz Israël, lui, il monte au Kafret Yar. Où est-ce qu'il va être? Il va être à la ville de Yafo. Qui c'est qui a la ville de Yafo? Il y a des gens qui sont modernes comme ça. Yafo, c'est la ville et est en train de se construire une nouvelle Shkouna. Vous savez, c'est quoi le nouveau Shkouna, le nouveau quartier de Yafo? Comment ça s'appelle? Tel Aviv. Tel Aviv, c'est le nouveau quartier de Yafo. Tel Aviv, c'est dans le sable, il n'y a pas de ville là-bas, il n'y a rien, il y a tout en train en construction. Maintenant, le Rav Kook, il avait accepté de monter en Israël pour être le grand rabbin de Yafo parce que là-bas se passait le renouveau d'Israël, au niveau culturel, etc. Ça ne se passait pas à Jérusalem, ça ne se passait pas à Tveria, ça ne se passait pas à la Tzfat, ça se passait d'Afka à Yafo. Yafo de l'époque, c'est comme Tel Aviv d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il va devenir grand rabbin de Yafo. Maintenant, lui, il va parler de manière très claire. En 1904, la date de son aliyah, qui c'est qui va mourir? Il va mourir Binyamin Zeev Herzl. C'est lui qui va mourir. En mourant, le Rav Kook, il va écrire un hesped, une oraison funèbre sur Herzl. Il va dire le suivant. Il va dire, Derhaga, pourquoi il va mourir, Herzl? Tu sais pourquoi il va mourir? D'après ses proches, il va mourir parce que il va mourir de tristesse. De quoi? Pourquoi il va mourir de tristesse? Allez, aidez-moi.
En 1904, de tristesse.
Ouais.
Il n'y a pas d'État? Bah
Il n'y a
ouais.
pas d'État. Il n'y a pas d'État. Ça le fait souffrir. Mais qu'est-ce qui l'a fait terriblement souffrir? C'est que M. Binyamin Herzl, il a proposé l'Ouganda comme État d'Israël. S'il avait une possibilité de faire un État d'Israël en Ouganda. Vous serez allé, vous, à l'Ouganda, vous?
Non.
C'est pas allé, d'accord? Le jour où il propose ça aux congressionnistes, il arrive et il dit, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On m'a proposé de faire un État d'Israël à l'Ouganda. Vous aurez accepté ou pas?
Non.
Non.
Débora, tu aurais accepté?
Non.
Là, moi non plus, je n'aurais pas accepté. Mais Hercel, il ne comprend pas ça. On a la possibilité. Qu'est-ce qu'il vit, Hercel? Il vit, il voit la Shoah en 1904. Il voit qu'il va y avoir une Shoah en Europe. Que les Juifs qui sont en Europe, ils vont souffrir. Ça marche. Il voit que les Juifs en Europe, ils vont souffrir. Pour les sauver, la seule solution, c'est l'Ouganda. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de les faire emmener en Ouganda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aux congressionnistes? Les Juifs religieux, ils déchirent leurs vêtements en signe de deuil. Cria, ils déchirent leurs vêtements. Ils font quoi? On n'est pas retourné en Israël pour partir à l'Ouganda. Maintenant, vous allez me donner la chita de Herzl. C'est quoi sa chita à Herzl? C'est quoi sa pensée? C'est quoi son but? Sharon, Dina, Shalom. C'est quoi son but?
Son but, c'est de sauver les Juifs.
Sauver les
Juifs. C'est la sécurité.
Sauver quoi des Juifs?
Un peuple, une nation, pas forcément.
Sauver quoi des Juifs? Le corps, le bassard, la chair et le sang. Sauver des Juifs. Non, un bon sentiment, c'est une bonne action. Bétard, c'est un sadique. Il veut sauver les Juifs. Le maximum de Juifs. Et il voit que l'Europe, ça va être le cimetière des Juifs. Il a eu raison. Derrière, les gens, ils critiquent Herzl. Des fois, il y a des petits rabbins qui critiquent Herzl. Mais ce Herzl a vu ce que des grands rabbinimes n'ont pas vu. Il faut être conscient de ça. Herzl, il a vu des choses que des grands rabbinimes n'ont pas vu. Il voulait sauver les Juifs. Hazak. Il va mourir parce que les Juifs ne veulent pas ça. Et lui, il voit que ça fait 430 ans ou 420 ans que l'Empire ottoman, il est ici. Et jamais ils vont nous donner un État pour l'instant. Si on veut tout de suite un État, c'est à l'Ouganda que ça se passe. Allez, faites les valises, quittez le Bioport, direction l'Ouganda. C'est bien? Maintenant, regardez. Le problème, il est comme ça. Le Rav Kook, lui, va dire Binyamin Zev Herzl, c'est le Mashiach Ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit ça comme ça. Il dit il est dans le processus du Mashiach Ben Yosef. C'est quoi le Mashiach Ben Yosef? Allez, Mahonora. On vous l'a répété 1500 fois. Donc vous savez, c'est quoi Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David? Il y a deux Mashiach.
Mashiach Ben Yosef, il prépare l'arrivée de Mashiach Ben David.
Il a fait. De quelle manière il prépare l'arrivée de Mashiach Ben David? Il y aura déjà ton père, hein?
Bien, en préparant, en faisant les guerres.
Faisant des guerres. C'est quoi son tarkit? C'est quoi son rôle? C'est quoi son business, hein, ma chère Ben Yosef? Business, à Kavana. Dans quoi il est fort, Yosef?
Il va ramener les Juifs en Israël.
Ramener en Eretz Israël. Alors, marquez, Yosef, ça vient du mot l'Esof. C'est quoi l'Esof?
Assembler.
Rassembler, bien fait. Rassembler. Donc Yosef ou Osef. Facile. Yosef, il est Osef, il rassemble. Donc il a cette force de rassemblement du peuple. Il a hérité de ça de sa mère, de Rachel, qu'elle est la mère d'Israël. La mère, elle veut tous ses enfants à la maison. Ok? Et ça, c'est Yosef. Maintenant, qu'est-ce que tu le vois, Yosef? Il est en Égypte, lui. Alors, quel rapport avec Israël? Mais Yosef, il se bat pour que ses frères soient protégés dans un endroit à Goshen et pas en Égypte même. Non, ils ne soient pas mélangés en Égypte. Ils sont rassemblés. Il leur dit, il sait diriger un pays, Yosef. Il sait diriger une économie, Yosef. Yosef, il est celui qui va réparer le Ramazé, réparer le monde ici-bas, le monde matériel. Ça, c'est Yosef. Donc, Mashiach Ben Yosef, ça serait à comparer. Dans le corps humain, par exemple, il y a le corps et l'âme. C'est plutôt le côté corps ou le côté âme?
Le corps.
Le corps. Il y a fait mode. Pessah Shavuot. Pessah, c'est le corps ou c'est l'âme?
C'est le corps.
Le corps.
C'est le corps. Donnez-moi une preuve que c'est le corps. C'est l'importance de la naissance du corps de la nation d'Israël, du corps d'Israël. Donnez-moi une preuve.
Ben, c'est à partir de là où on est devenu une nation.
Parfait. On est devenu une nation, mais prouve-moi que ce n'est pas l'âme. Prouve-moi que ce n'est pas la partie spirituelle.
Bah, parce qu'on fait un céder, on mange, etc. Donc c'est...
Oh, pas mal, fait. C'est-à-dire qu'on mange des choses, on met en avant le côté de la nourriture, c'est-à-dire, mais à quel niveau de degré de spiritualité on était? Après ça, constant d'Égypte. On est des salikim?
Non, pas du tout.
On est au 49e degré d'impureté. Au niveau spirituel, on est au plus bas. Il y a des salikim, mais les robes du peuple d'Israël, ils sont au plus bas. Pire que ça, 82 peuple d'Israël, ils voulaient rester en Égypte. On devait se rendre compte, 80% du peuple d'Israël voulait rester en Égypte. Donc c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui est né seulement, c'est une nation. Ça, oui. On est sorti de l'Égypte. L'Égypte, elle est tombée face à nous dans la mer, des gens. Ok, il y a un souffle. Super. Donc, on a une force au niveau national. Est-ce qu'on a une force spirituelle? Non. Ça viendra seulement à Shavuot. Mais non. Pessah, c'est le côté du corps du Ham Israël, du gouffre. Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le côté de l'âme d'Israël. On reçoit l'âme d'Israël à Shavuot. C'est Matan Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? La Torah, c'est l'âme d'Israël. T'as fait. Maintenant, je vous pose la question. Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim. Quelle date c'est Yom Atzmaout?
5 Iyar.
Hebeyar, le 5 Iyar. C'est quand Yom Yerushalayim? Jeudi soir, là, c'est ce jeudi soir. C'est quelle date? On vient de le dire. Kafret Iyar. Kohar shel Iyar, la force de Iyar. Placez-moi, Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim. Qu'est-ce qui est Chomer? Qu'est-ce qui est Ruach? Qu'est-ce qui est matérialité? Qu'est-ce qui est spirituel? Yom Atzmaout, c'est spirituel, c'est matériel, etc. On retrouve une nation, on retrouve un peuple, on retrouve un état, on retrouve une politique, etc. Sauf, on redevient comme à Pessah. Et Kafret Iyar Yerushalayim, Yom Yerushalayim. Déjà, on pense au Beth Amikdash, on pense à la reconstruction du temple, on arrive à Jérusalem, on arrive dans notre ville où on était, Mamlechet Kohanim, on était la nation de prêtres, on parle des korbanot, des sacrifices spirituels de Yerushalayim, qui Beti Betefila Yikarel Kolamim, c'est la maison de la Tfila, c'est là où on va prier, le Kotel, on s'attache à Hachem, c'est le Makom de la Shrina, c'est le Makom du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est plus rattaché à Shavuot. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est comme ça que ça se sépare. On a Pessah Yom Atzmaout, Yom Yerushalayim et Shavuot. Maintenant, quelle est la bracha que les hommes font? Vous faites ça tous les matins. Mais quand un homme, il monte à la Torah, quelle bracha il fait? La dernière fois que vous êtes monté à la Torah, qu'est-ce que vous avez fait comme bracha?
C'est
monté à la Torah, non? Quand un homme, il monte à la Torah, Bokhata Hashem Elkenu Melech HaOlam, Asher... Vous dites tous les mots. Asher. Bachar banu mikol ha'amim. Venatan la Torah to. Bochat Hashem noten la Torah. Quel rapport avec Pessah Shavuot?
Shavuot, on reçoit la Torah.
D'accord, mais avec Pessah Shavuot, quel rapport?
Dans la phrase, dans la bracha.
Bien fait. Qu'est-ce qu'il y a marqué?
Il nous a choisi.
Asher bachar banu mikol ha'amim.
Qui nous a choisi par le peuple, donc ça c'est matériel.
Bien fait, c'est Pessah. Asher Bacharban Mikol Amim, c'est Pessah. Il nous a choisi parmi tous les peuples, c'est Pessah, c'est la construction d'Israël. Venatalanu et Torato. Maintenant le Vav. Ça veut dire quoi ce Vav?
V, c'est E.
C'est E, c'est le Chibour, c'est la connexion. Il n'y a pas Pessah sans Shavuot, il n'y a pas Shavuot sans Pessah, ça va ensemble. Non. Toi, tu t'imagines sans Neshama? Que corps? Que gouffre? Non. Ton gouffre et la Neshama, ils sont béliachad, ils sont ensemble. Nachon? Maintenant, si tu as Pessah sans Shavuot, c'est un problème. Tu es que sur l'amazé, mais tu n'as pas de Neshama. Tu es comme un animal. De notre côté, si tu as que la Neshama, tu n'as pas de corps, tu es comme un Shindalet, un démon. Nous, qu'est-ce qu'on est? Le ribour entre les deux. On est le lien qui existe entre les deux. Donc, Pessah et Shavuot, c'est ensemble. À quel écart qu'on est obligé de connecter ensemble, on compte le Homer. Sfirat à Homer, c'est justement pour pouvoir lier les deux. S'attacher à Pessah et à Shavuot. Lier les deux. Mais tu as Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim, c'est la même chose. Yom Atzmaout et Yom Yerushalayim, c'est la même chose. Yom Atzmaout, c'est le Pessah contemporain, Yom Yerushalayim, ça aurait dû être comme Shavuot, mais ça n'a pas marché. Et là, je vous explique. Ça a marché, c'est un début, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Yom Yerushalayim n'est fêté par presque personne. Ce n'est pas un jour de congé, les gens ne connaissent pas l'importance de ce jour, etc., etc., etc. Yom Yerushalayim, c'est la neshama de Yom Ha'atzmaut. Yom Yerushalayim, c'est la neshama de Yom Ha'atzmaut. Si une personne, elle fête Yom Ha'atzmaut, elle est contente d'avoir l'importance, etc., etc. Si, donc c'est clair, on doit être content. Comme on doit être content à Pessah, Géoula, sauf on sort de la galoute, sauf on retourne dans notre pays, on doit être heureux. Mais la Neshama, elle vient expliquer pourquoi tu dois être une nation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait âme. Ça, c'est à Shavuot. D'ailleurs, Yom Shalayim, tu comprends. Et le Rav Kook, il va dire, ma chère Ben Yosef, c'est celui qui va construire le cadre de la nation d'Israël. Ma chère Ben David, c'est celui qui va emmener le but spirituel, la richesse spirituelle de pourquoi nous sommes Am Hashem, peuple d'Hashem. Ça, c'est le message spirituel d'Israël. C'est la Torah, c'est la prophétie, c'est les mitzvot, etc. Ça, c'est ce que vient emmener le Machiav Ben David. On est une nation de Torah. On est la nation de Torah. Est-ce que vous avez des questions? Eve, tu as l'air d'aller avoir de beaucoup de questions.
Moi, non, pas du tout.
C'est-à-dire, donc vous comprenez, c'est-à-dire Yom Ha'atzmaut et Yom Ha'atzmaut, c'est comme le gouffre et la Neshama. Malheureusement, on fête plus Yom Ha'atzmaut que Yom Yerushalayim. Parce que la Neshama, on a du mal à l'itraber, on a du mal à s'attacher. Le Rav Kook dit, Yosef Gematria, c'est pas lui qui dit ça, mais c'est Yadoua, mais il dit que Yosef Gematria, Sion, c'est 156, c'est la même Gematria que Sion. Sion, c'est Sion. Rav Sion, c'est, on dit, Eretz Israël, mais c'est aussi Yerushalayim, il l'appelait Sion. Maintenant, regardez. Il dit, Yosef, c'est Sion. C'est tout le processus de la Tzionout. Mais la Tzionout, c'est quoi? C'est reconstruire le corps d'Israël, le corps de la nation d'Israël. Et donc, le Rav nous dit, il faut en inventer un nouveau mouvement. Comment on va l'appeler, ce mouvement?
Le sionisme.
Le sionisme, non. Il dit qu'il faut dépasser le sionisme et il va appeler le nouveau mouvement.
David.
Presque. Puisqu'on parle de Yerushalayim, il y a Tzion et Yerushalayim. Il y a deux noms à Jérusalem, et Tzion et Yerushalayim. Il dit la Tzionout, premier mouvement. C'est ma chère Ben Yosef. Le deuxième mouvement, ma chère Ben David, il s'appelle comment? Yom Ha'atzmaut comme Yerushalayim. Comment tu dis? Yerushalmiut. La Yerushalmiut. D'arriver à Yerushalayim. Alors, il ne va pas vraiment l'appeler Yerushalmiut, il va l'appeler Degel Yerushalayim, le drapeau de Jérusalem. Et on va le voir que de quelle manière il va commencer à parler de ça, à mettre comme centralité le retour en Eretz Israël, le retour à Jérusalem, pas seulement en Eretz Israël, mais à Jérusalem. Et il va renouveler, vous savez qu'à l'époque du Beit HaMikdash, tous les jours, tous les Juifs, trois fois par an, les Shlosh et HaRegalim, les Juifs ils retournaient à Yerushalayim, tous les Juifs de tout Eretz Israël, ils montaient à Jérusalem pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Et le Rav Kook, en 1928, il va renouveler ce minhag-là. Vous voulez voir? Vous voulez voir ou pas?
Oui.
Vous allez tomber de votre chaise, faites attention. Parce que moi, je suis tombé de votre chaise quand je l'ai vu ça. Mais regarde. Vous voyez l'image ou pas?
Attends. Oui.
Ah, zut. Non, c'est pas ça. Deux secondes. Deux. On va voir. C'est pas ça non plus. Macarala, comment ça se fait que c'est... Ah voilà. Attendez, 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 deux secondes. Est-ce que vous voyez là?
Oui.
Qu'est-ce qui a marqué?
Pessar.
Pessar Vélagbaomer.
Bien fait, moi. Pessar Vélagbaomer, à travers un film de l'été en Eretz Israël, une printemps en Eretz Israël 1928. Le renouvellement de la coutume de monter à pied à Jérusalem en 1928, de Pessar 1928.
המנהג העתיק של עלייה לרגל מתחדש. בחצר גדולה במרכז ירושלים נאסף קהל רב לה...
Alors vous voyez déjà là, déjà vous voyez, attendez, que le Machon Oral ne vous a pas menti, il existait le Rav Kook. Si vous aviez des doutes. On ne savait pas. Regardez, j'ai montré ça aux enfants, ils m'ont dit, waouh,
המנהג העתיק של עלייה לרגל מתחדש. בחצר גדולה במרכז ירושלים נאסף קהל רב להאזין לדברי הרב קוק אשר נאם בנאום יפה שתורה וחוכמה שימשו בו בערבוביה. אחרי החלק הנגינתי קם מנחם מוסישקין. המון רב קידם אותו במחיאות כפיים סוערות. בנאום נפלא הציג את רעיון שחרור האדמה. משם פנה הקהל ללכת אל הכותל. בדרך נוספו רבים עד שעלה מספר פרם ל-4,000 איש. כנהר גדול זרם הקהל בסדר ובמשטר אל הכותל המערבי בשירת ייבנה המקדש.
וואו. מניפיק. שכפו שלא רואה, אני מתרגש. חזק.
Ils ont été vraiment à pied?
Ah, ils sont arrivés comme nous. Vous avez jamais été à Pessar Shavuot et Sukkot à Jérusalem? Tu vas à la vieille ville, il y a des rabbanim, des grands rabbanim d'Israël, et t'es à la place du Cardo, la place de la Chorva, la grande synagogue qu'ils ont construite, et tu vas à pied jusqu'au Kodem.
Ah oui, oui.
Mais avant, en Israël, oui, ils allaient à pied, à chameau, etc. C'est allié à la Régel, c'est monter à pied, dans le sens de monter à Jérusalem. Ça a l'air ? Maintenant, pourquoi ? Parce qu'il dit, à quoi ça sert ? C'est pas quoi ça sert, il y a une valeur à la Tzionos. Mais lui, déjà... Je vous dis, en 1928, ça c'est déjà très avancé. Lui, c'est fou parce que là, on le voit parler, etc. Il va mourir en 33. Dans 5 ans, il meurt là. C'est-à-dire dans le film, par rapport au film qu'on voit. Là, il est le grand rabbin de Jérusalem. Il est le grand rabbin d'Israël. Il est le grand rabbin d'Israël à Jérusalem. Et il parle de quoi ? Qu'on doit dépasser le mouvement sioniste. Maintenant, quelle est la force, justement, de son mouvement, qu'est-ce qu'il veut exactement faire, c'est d'abord voir la force, la particularité de Jérusalem. Alors, on va voir les mikorotes. Est-ce qu'on peut monter les sources? Il y a très peu de films, je crois qu'il y a 3-4 films comme ça du Rav Kook, où on voit le Rav Kook comme ça. Sinon, très peu de films. On le voit bien, quoi, c'est marrant. Mmh. Attendez deux secondes, j'ai... Ok, alors regardez. Au numéro 2, vous voyez la source numéro 2? C'est tiré de la Gemara Chagiga dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi. Amar Rabbi Yehoshua ben Lévi, Rabbi Yehoshua fils de Lévi, dit Yerushalayim. Alors il cite un pasouk qui dit Yerushalayim abnouya keir chez Chubrala Yardav. Yerushalayim qui est construite comme la ville chez Chubrala Yardav. C'est quoi la ville chez Chubrala Yardav? La ville qui unifie ensemble. C'est-à-dire, la ville de Jérusalem, elle unifie les gens. Et de là, la Gemara, le Talmud dit, « Ir shei osa kol Israël chavirim » La ville qui fait d'Israël tous des amis. Alors, « kol Israël chavirim », ça veut dire aussi des sages, c'est-à-dire « chavir ». Mais là, dans le sens simple, « Yerushalayim », c'est la ville qui unifie le Ham Israël. qui fait que le Ham Israël y soit tous mechoubarim, tous ravirim, tous connectés. Ça, c'est la puissance de Yerushalayim. Moi, je veux comprendre c'est quoi cette importance-là du shalom, de la hava, et comme nous, comment nous, dans notre vie, on peut arriver à ça. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'arriver à ça, vu le nombre de problèmes de shalom entre nous, de machloket entre nous, surtout dans cette période, tu vois, les périodes de Yom HaTzmaout, les gens qui sont d'accord, les gens qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas si c'est les filles, c'est pareil, mais les garçons, c'est très difficile entre leurs copains, lui, il étudie dans cette yeshiva, l'autre, il étudie dans cette yeshiva. C'est-à-dire, il faut faire très attention de permettre, oui, la machloket, la discussion, le désaccord au niveau des pensées, mais ne jamais toucher à un écoutat ahava, au point d'amour entre l'âme Israël. Alors, pour pouvoir arriver à ça, on va étudier qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu dit, tout ça. On va voir aussi le Tanya, très connu. On y va. Ici, vous avez dans ma cour 6, Vayikra Perek Yutet. Perek Yutet, dans Sefer Vayikra, Vayikra, c'est appelé Torah de Kohanim, c'est appelé le livre des prêtres. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des korbanot, des sacrifices. On va parler de tout ce qui est en rapport avec les Kohanim, mais pas seulement des Kohanim, puisqu'il y a plein de mitzvot qui nous concernent, nous qui ne sommes pas Kohanim. Alors, regardez les plusieurs halakhot. L'oteler rachil be'amecha. Allez, ça veut dire quoi, l'oteler rachil be'amecha ?
Rachil.
C'est quoi, rachil ? L'oteler rachil be'amecha, c'est-à-dire, tu n'as pas le droit, tu n'iras pas colporter dans ton peuple. C'est quoi colporter ? C'est dire du lashon hara. Maintenant, donnez-moi, Dina, donne-moi la gdara du lashon hara. C'est quoi lashon hara ? Ok.
Je dois dire ce que c'est ?
Ouais. Ah, mais t'es là. Bah,
Oui, je viens. Lashon hara, c'est.
Voilà.
Quoi ?
Des élèves, pas toi, des élèves garçons, où ils mettent, ils sont pas là, quoi, mais ils sont là. T'as compris le truc ? Je dis, en fait, il est pas là. Après, je t'envoie sur WhatsApp, je dis, mais où t'étais ? Je suis là. Oui, mais là, qui sont ? Bon, Rachel, alors qu'est-ce que c'est pour la chanara ?
La chanara, c'est parler mal de quelqu'un dans son dos.
Nachon, c'est émettre ou shaker ?
Ben, ça peut être les deux.
Ça peut être les deux. Alors, pour ça que j'ai posé la question, c'est que du Emet. La Shonara, c'est que du Emet. C'est que de la vérité. Bon, je dis, c'est que du Emet. Marquez que la Shonara, c'est dit du mal, dire la vérité sur une personne, mais une vérité qui est mauvaise à dire. Pas une mauvaise vérité. C'est que la chose que tu vas dire, c'est une mauvaise chose sur la personne, mais c'est vrai. Ça, c'est du lashon hara. Le mensonge sur quelqu'un, ça s'appelle motzi shemra, qui fait un mauvais nom à la personne. Ça, c'est une chose qui est totalement fausse. C'est bien ? Il y a des choses qui sont vraies, et c'est mal, et tu n'as pas le droit de raconter, c'est lashon hara. Les choses qui sont fausses, c'est motzi shemra. Maintenant, rachil, c'est une personne qui, non seulement il va dire du lashon hara à une personne, mais il va aller chercher les gens pour leur raconter du lashon hara. Par exemple, dans les réseaux sociaux, si une personne commence à dire du mal de quelqu'un, même si c'est vrai, étant donné que ça va à l'itbarsem de Holmakom, alors peut-être c'est digne de Rachil Be'amecha. C'est-à-dire que tu colportes, tu t'inquiètes de façon à ce que cette mauvaise chose arrive chez les autres. Mais alors, est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on a le droit de dire Lashon Hara, et ça ne s'appelle plus du Lashon Hara, c'est quand c'est Yeshto Elet, il y a une utilité. Par exemple, tu connais une copine qui a fait des choses graves et qui maintenant elle va avoir un chidour avec un bachour. Tu disais que cette fille elle a fait des choses très graves. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles le rav du bachour,
oui.
Et tu vas lui dire, regardez, moi je ne sais pas trop comment dire ça au bachour, mais il faut qu'il sache que cette fille elle a fait ça et ça. Ça, c'est du lashon hara ou pas ? Alors, ce n'est pas du lashon hara. C'est-à-dire, c'est une grande mitzvah.
Mais si à chaque fois qu'on fait ça, la fille
va se marier. Ça
ne se fait pas. On peut pas faire ça.
Vous rigolez, là ? Viens, viens, en fait. Moi, je ne connais que des filles sadikotes. Par contre, les bachorim, je connais des sadikot, sadikim. Ok, si tu as un garçon sadique, c'est-à-dire, ben, c'est pas du tout de la chanara de prévenir que cette personne, elle n'est pas apte à se marier. Si moi je connais sur un élève, je donne un exemple, moi je connais un élève, c'est-à-dire, qui a de gros problèmes, c'est-à-dire, une avéra de laisser la chose passer sans prévenir la personne.
Oui, mais c'est à chaque fois on fait ça, elle va être.
Qu'elle fasse chouva, qu'elle change. Oui. Attends, je ne parle pas, attends, c'est ça. Je ne parle pas d'une personne chouva, et qui elle, c'est une fille qui tombe tout le temps dans cette faute-là. L'ODA, c'est un, une fille, je ne peux pas dire tout ça. Un garçon qui est coléreux. Tu connais un garçon coléreux ? Qui s'énerve, qui est capdane, qui est prise de tête, qui est en colère tout le temps.
Ça alors, quoi, tous les garçons coléreux, ils ne vont jamais se marier. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va digérer.
Non, moi, mon exemple mon expérience personnelle, c'est que des fois, tu arrives trop tard. C'est que la fille, elle est déjà amoureuse. Alors là, c'est ça. Bon, il y a eu des cas, je suis tombé de ma chaise. J'ai prévenu certaines personnes pour des choses qui sont très graves. Mais la fille, elle était déjà amoureuse. Donc, elle a dit, non, mais avec moi, il n'est pas comme ça. C'est faux ce que vous dites. Bon, après, vous voyez, c'est un peu dur. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils arrivent à se marier. Il y a des gens qui arrivent à manipuler. Maintenant, est-ce que nous, on peut pouvoir vous prévenir quand c'est des dangers? Alors, je te dis, autre part, c'est pas, tu vas dire, ta copine, elle s'est disputée avec toi, donc tu vas la dénoncer à tous les chidourines, elle m'a fait ça, mais truc, ça sourd.
Oui, pas ça.
Parle d'un gros problème. Pardon, un truc où tout le monde doit être d'accord. Tu sais que la fille, elle est maniaque dépressive. Grave maladie. Grave maladie. Ou une personne, phrase de chez l'homme, elle est schizophrène, mais mamache, quoi, une vraie. Elle n'a pas dénoncé ça.
Elle n'a pas dit. Ça, oui.
Elle a... va... Non, un schizophrène peut-être, mais maniaco-dépressif, si elle prend ses médicaments, tout se passe bien. Sauf le jour où il y a des problèmes. Mais tout se passe bien, tu ne vas pas dénoncer ça. Ben là, tu vas dénoncer. Ce n'est pas dénoncer, c'est mettre au courant. Déjà qu'elle n'ait pas dit ça, c'est très grave. Mais non, autre part, moi je vous conseille de ne pas dire ça directement, d'aller voir le rab, et lui après c'est son problème de s'occuper de comment dire. En plus, toi des fois quand tu dis quelque chose, tu rajoutes. Donc il faut faire attention. C'est clair qu'on doit dire. C'est ça? Il y a Manilo Mévin, quoi, votre réaction là. Si elle est mauvaise, si ma mâche, si une fille qui a des gros problèmes nafchites, ben, il faut pas prévenir. Vous allez laisser se marier? Je n'ai pas dit des problèmes, tu l'aimes pas cette fille parce qu'elle n'est pas sympa. Lui, peut-être qu'il va te trouver sympa. Il va trouver comme sa mère, elle ressemble à sa mère. Alors il va se marier avec elle. Mais si c'est une fille qui est mamache qui a un problème, c'est mamache problématique, sans donner de détails, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut prévenir. C'est-à-dire, mais ça, hein, donc ça, ce ne sera pas du lachon hara. À partir du moment où il y a toilette, à partir du moment où il y a l'utilité qu'on sache, alors ça sort du cadre du lachon hara. Lachon hara, c'est vraiment dire du mal, on n'a pas besoin de savoir. C'est-à-dire, lachon hara, c'est. On va dire. C'est le journaliste, pardon. Le journaliste, il peut dire beaucoup de lachon hara. Il va raconter des histoires, mais il n'a rien à faire, qui nous a rien à faire dans ça. Non, non, vous savez le nom, le joli nom qu'on a donné au lachon hara? C'est Zéchou et Tibour la date. Le droit du Tibour de savoir. Le droit de tout le monde de savoir. Qui c'est qui a permis une chose comme ça? Le droit de tout le monde de savoir. Ce qui t'a permis, c'est Bidou Lachonara. Il y a du mal qui est fait. Et tu parles à des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas besoin de ça, hein, de savoir. Qui c'est qui t'a permis une chose comme ça? Donc c'est très très difficile. Maintenant, dans le même passou, vous allez m'expliquer, dans le même passou qu'on dit qu'il n'a pas le droit de comporter du Lachonara, des choses mauvaises. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit. L'otahamod aldam re'echa. C'est quoi l'otahamod aldam re'echa?
Ne te lève pas devant le sang.
Ne te tiens pas debout sur le sang de ton prochain, ani Hachem. Re'echa, c'est ton ami, ani Hachem. Je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire l'otahamod aldam re'echa? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres.
Alors, l'Ota Amot, ça vous rappelle quoi, l'Ota Amot? C'est quoi? Amida. Amida, c'est se tenir debout. Non, se tenir debout. On tient debout. On tient debout comme les anges. Les anges, ils tiennent debout devant un cadre. Mais là, tu tiens debout. C'est-à-dire? Sur le sang de ton voisin. C'est quoi? C'est quelle situation? Les Khamis nous disent quand le sang de ton voisin, une personne te dira, quand ton voisin est en, ton voisin, ton ami est en danger, tu dois le sauver. Ils traduisent comme ça. Tu ne dois pas rester indifférent lorsque le sang de ton voisin coule. Ça, c'est l'Ota Amot al Damrecha. Qui c'est qui traduit ce commandement pour respecter l'Ota Amot al Damrecha? C'est nos soldats. Tous nos soldats, ils réalisent le commandement de l'Ota Amot al Damrecha. Du fait qu'ils nous défendent dans notre pays, qu'ils nous permettent de vivre, etc., qu'ils nous protègent, c'est réaliser le commandement de « tu ne dois pas rester indifférent » lorsque le sang de ton prochain coule. Maintenant, quel rapport avec ce verset-là? Quel rapport avec ce verset-là? Le début du verset, c'est « dis pas du lashon hara à tout le monde de, », d'aller de l'un à l'autre pour pouvoir dire du mal d'autrui. « Lo talmod al damrecha, ani Hashem » ne reste pas indifférent lorsque le sang de ton voisin coule, de ton prochain coule. Quel rapport? Le début du verset-là.
Bah, dire du lashon hara, ça peut engendrer que quelqu'un y souffre.
Alors, pire que ça, dire du lashon hara sur quelqu'un, c'est le tuer. Tu as tué la personne, au sens figuré, mais c'est considéré comme quelque chose de très grave. Tu as tué la personne. Tu l'as tué aux yeux de ses amis, tu l'as tué aux yeux de la société. Tu ne l'as pas juste tué. Maintenant, toi qui entends ça, c'est-à-dire Rachel, c'est-à-dire que la personne, elle vient, elle te raconte ça. Toi, tu ne dois pas rester indifférent quand on fait du lashon hara sur quelqu'un. Il faut défendre la personne. Je vous donne un exemple. Vous êtes, vous allez mettre en place sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux un mécanisme qui permet de tout de suite empêcher de dire mal sur quelqu'un. Il y a un enfant sur lequel on va dire du mal, et une personne, pardon. Une personne qui va dire du mal, et il y a un mécanisme comme ça qui reconnaît, qui sait lire, qui sait traduire et qui comprend, et qui va empêcher la diffusion de choses mauvaises sur un tel. Vous réalisez la mitzvah de l'otalmod al-damrech. Tu ne restes pas indifférent quand le sang de ton ami coule. Voilà. Donc, on a une responsabilité énorme de protéger toute personne par rapport au lashon hara. C'est-à-dire, pas juste, moi, je n'ai pas le droit d'écouter, mais empêcher que le lashon hara se diffuse. C'est très dur. Pourquoi? Parce que est-ce que tu peux être propriétaire d'un journal? Est-ce que quand tu vas être propriétaire d'un journal, moi, le lashon hara dans ce journal? Est-ce que parmi vous, il va y avoir peut-être des journalistes, des écrivains, etc. C'est très dur d'écrire. Faites attention à ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, etc. Quand tu lâches là, et le fait est de, tu verses le sang de ton ami. Maintenant, la Torah elle continue dans ce même kibboum, dans cette même direction, et elle dit « L'otisna est arichab. » Tu ne dois pas avoir de l'air à ton frère dans ton cœur. C'est quoi faire des remontrances à ton amitecha, c'est ami, amitecha, c'est amit, amitecha, ton ami. Mais l'otissa à la fête, il ne portera pas la faute. Alors on y va. D'abord, interdiction d'avoir de la sina. C'est quoi la sina? C'est avoir de la haine. Un truc très simple. Interdiction de cela. Il va y marquer bilvavera, dans ton cœur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu as une haine particulière. Tu n'as pas le droit de le garder dans ton cœur. Comment tu fais pour l'enlever de ton cœur? C'est très simple. Elle a marché sur ton lit, okay, ou elle a pris ta serviette. Elle a besoin de s'essuyer ses mains. Elle prend ta serviette. Et toi, tu ne supportes pas ça. C'est bien? L'otisna est achotra bilvavera. Tu ne dois pas avoir de la haine bilvavera. Tu ne dois pas avoir de la haine de ta sœur, bilva vert dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais alors?
Tu t'en fous.
C'est facile. Si pour toi c'est facile, c'est sévère. Mais une autre solution, c'est garde pas ça dans ton cœur. Dis-lui. Dis-lui, tu sais que ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup que tu t'essuies sur ma serviette. Moi, je ne supporte pas. Moi, j'ai ma serviette, c'est ma serviette. Ça me dérange, si tu veux, je t'offre une serviette, c'est contre son anniversaire. Ou même avant, pour la fête des sœurs, je t'offre une serviette, tu la touches pas. Zebseder?
D'accord, Zebseder.
Mais ce, qu'il dit, ce que dit la Torah, c'est d'abord de rien garder dans le cœur. De rien garder, de se manger. Tu fais des choses, mais de l'intérieur, tu te bouffes. Là, l'autisna est après un niveau interdiction de garder la sina dans la. C'est-à-dire, tu as le droit de le dire dans la bouche, la sina. Mais tu dois parler, pas à la personne. Maintenant, oria, toria, ritamitera. Fais des remontrances à ton ami. L'autisna ne va pas être comme ça, il ne fera plus de fautes. Ça veut dire quoi? Qu'on a une mitzvah de faire des remontrances aux gens. Tu ne tiens pas comme ça, c'est pas comme si. Tu as fait ça, c'est pas bien. Pourquoi tu dis ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça, c'est pas bien. Pourquoi tu ne te comportes pas comme ça, c'est pas bien. Ce caractère que tu as, il n'est pas bien. Ces avérotes que tu as faites, tu as fait 1, 2, 3, 4 avérotes. Quand est-ce que tu vas t'arrêter de faire des avérotes? Ça, c'est mitzvah de torrecha, une mitzvah de remontrance. La Torah, elle te dit, tu fais des remontrances, tu feras des remontrances à ton ami. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord?
Mais on n'a pas le droit de rappeler les avérotes aux gens.
Non, tu n'as pas le droit de rappeler une fois qu'il a fait tchouva. C'est du mal. Mais Vanna, pourquoi tu n'es pas d'accord?
Parce que le rabaisser tout le temps, ça ne sert à rien.
Ok, il a fait. Mais Vanna, dit, la fin du verset, il y a marqué « Lotissa à la frette ». Le but, c'est qu'il ne fasse plus de fautes. Qu'il ne fasse plus de fautes. Or, si tu le rabaisses tout le temps, est-ce qu'il va changer? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire « Ochriar tochriar » Ça vous rappelle quel mot « tochriar » Comme je vous dis, « tochriar » c'est une remontrance. « Ochriar » c'est faire des remontrances. « Tochriar » fait des remontrances. Mais quel mot ça vous rappelle aussi? Quel verbe ça vous rappelle? « Ochriar » Le ochriar, une ochacha. C'est quoi une ochacha? Tu rigoles.
On ne fait plus d'oulpan en fait.
Ah, tu ne fais plus d'oulpan. Ok, mais il faut faire l'oulpan. Ochacha, ouais. C'est quoi ochacha?
Je ne sais pas.
Une preuve. Bon, quelque chose, c'est prouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Ça me dire quoi?
Chaque fois que tu fais une remontrance, ben il faut avoir la capacité de prouver qu'elle l'a vraiment fait.
Ok, il a fait. Il faut lui prouver. Et tellement tu as prouvé qu'il va changer. C'est une remontrance où tu lui prouves le mal, tu lui montres clairement. C'est bien. Il y a mon fils qui fait de la peinture. Vous voyez sur le mur, on a deux trucs, mais je suis en train de voir, je dis, mais c'est quoi ce truc de fou là? Vous voyez la peinture du fond là? Et il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient me voir, il fait, ah bah, je t'ai fait un tuyau magnifique. Je dis, ouais. Il fait, ça va te faire plaisir. Je dis, tu vois, c'est quoi? Il me montre, il a fait la tour Eiffel. Ribono, je suis là. Comment ça fait une chose comme ça? C'est-à-dire, il veut faire plaisir à son père. Ah bah, je t'ai fait la tour Eiffel. Non, regardez où est-ce qu'il a mis. Il a mis la tour Eiffel à côté
de la
tour. Mais non, t'es obligé de le mettre. C'est compliqué, tu vas pas lui dire, mais quoi, est-ce qu'il en a à faire la tour Eiffel? De quoi tu parles? En plus d'expérience, la tour Eiffel. Madame Dabert. Là, il était content. Ouais. Là, t'achètes. Maintenant, qu'est-ce que. Ria, c'est-à-dire qu'il faut prouver le mal. Il faut arriver à prouver le mal. Et je répète ce que Levan a dit. Si ce n'est pas clair et que grâce à ça, il va changer, alors, tishteki, tais-toi. Est-ce que ce que veut dire exactement le Chafetz Chaim? Je comprends que Levana a dit le Chafetz Chaim, il dit interdiction de faire des remontrances. Personne n'est capable de faire des remontrances aujourd'hui dans notre génération. Et ça, c'est un lieu de vie. Il donne trois conditions pour faire des remontrances. Allez, première condition.
Bah déjà, de nous, pas le faire.
De quoi?
Bah déjà, de nous être.
Ne pas faire la faute. Alors, ça peut être exprimé dans la première condition. C'est quoi la première condition? C'est que si tu fais une tochecha, que tu la fasses que pour le bien d'autrui. que ma mâche, tu penses à faire, à lui faire du bien. Et tôt, va tôt, pour son bien, lui, pas lui faire du bien, pour son bien, lui. Alors, tu vois une personne qui est. Ça fait de la peine. Dis, mais attends, il va aller pas tout malade. Donc, toi, sois naquis. Parce que des fois, quand on fait de Torahot, on veut dire, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. D'accord ? Mais non, t'en as rien à faire. Tu sais que t'as raison, qu'il faut pas fumer. Tu vois une personne qui fume, tu dis, mal, qu'est-ce que tu fais là ? Tout à l'heure ? Ou une personne qui ne veut pas monter en Eretz Israël. Toi, t'en Eretz Israël, etc., etc. Tu veux l'aider pour lui dire, maintenant, tu vas rester en France. Qu'est-ce que tu fais en France ? Qu'est-ce que tu vas faire ici ? Deuxième, non, c'est pire. La deuxième, c'est que l'autre sait que ce que tu lui dis, c'est que pour son bien. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il soit convaincu que ce que tu es en train de lui dire, ça soit que pour son bien. Alors ça, c'est... D'arriver à ça, c'est très, très difficile. Pourquoi ? Parce que la personne, pour se justifier, tout le temps, il y a un mécanisme intérieur pour pouvoir rester fort. Il y a une personne qui va se justifier de ce qu'il fait. Il va trouver pourquoi c'est bien ce qu'il fait, pourquoi il n'a pas tort, pourquoi il est best-seller, etc. Il va donner toutes les raisons pour dire qu'il est best-seller, que moi je suis best-seller. Moi j'ai raison de faire ça. Maintenant, vient la troisième condition. Donc la première, que moi je fais ça pour les taux. Deuxième, que lui fait ça pour les taux. Qu'il sache que je fais ça pour son bien. La troisième, c'est qu'on est sûr que quand il va entendre ça, il va le faire. Ce que disait Levana. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Si tu n'es pas sûr qu'il fasse, laisse tomber. Et je donne un exemple. Cet exemple-là, c'est la seule condition pour pouvoir faire une torécha. Il y a une personne qui se balade. Et lorsqu'il se balade, il voit Shimon. Son copain Shimon. Et Shimon, qu'est-ce qui se passe ? Il sort de la raquette, il sort du train et il tombe de sa poche, il tombe son portefeuille. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis ? Shimon, arnaque sur le train. Tu dis, hey, Shimon, ton portefeuille. Autre part, je fais ça pourquoi ? Que pour son bien. J'ai aucun intérêt, c'est pas, je vais rien gagner à ça. Shimon, quand il entend ça, il sait que tu fais ça que pour son bien. Le troisième, est-ce que Shimon il va lever le portefeuille, oui ou non ?
Oui.
Bête.
C'est pas une remontrance. Bien.
C'est une remontrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un massacre. Il l'a pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Et c'est passé. Lui doit réparer. C'est une situation manquante, c'est un manque. Et lui il doit réparer. C'est dans ce sens-là, remontrance. Il doit réparer quelque chose de mal. Et tu répares ça. Et donc Shimon il va le faire. Il va lui-même dire Toda. Alors, si vous trouvez des situations, des personnes avec qui vous pouvez lui permettre de changer des choses mauvaises qui sont dans sa vie, à la manière de Shimon qui a perdu son porte-monnaie, alors vous avez le droit de faire des torahot. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi le Rav Etzraïm dit interdiction de faire des torahot. Pourquoi ? Parce que la majorité des cas, c'est pas c'est le cas de ramasser ton portefeuille. La majorité des cas, c'est tu fais pas ça, ça c'est pas bien, etc. etc. Alors, je vais raconter une histoire d'il y a 25 ans. 25 ans, j'étais situé chez Rav Zuckerman. On était le matin, le mercredi matin, on est en cours de Gemara. Pendant le cours de Gemara, il y a un élève, un ami à moi, Yaakov, qui prend une pièce de 10 agorot, il la met dans sa bouche. C'est bien ? C'est bien ça ou c'est pas bien ?
Ouais, c'est bien.
C'est pas bien, pourquoi c'est pas bien ?
Il peut s'étouffer.
Il peut s'étouffer, ok. Bon, il a quand même 18 ans, c'est bien.
C'est ça, pas dans la
bouche. Bien fait. La Gemara a dit ce que tu dis. C'est une pièce qui a été touchée par tout le monde. C'est ça, tu ne peux pas le mettre dans la bouche. Non, je me pose toujours la question comment c'est que la Gemara est obligée de nous dire ça. C'est pas chouette. Okay. C'est les gestes, comme ils ont appelé ça en France, les gestes.
Barrière.
Barrière. Ah là là, la France, elle a la Baruch Hashem, elle a la Chorma pour la parole. C'est bien? Les gestes barrières. Donc, c'est des gestes barrières, tu ne mettras pas. Il disait gros truc. Maintenant, le Rav Zuckerman, il voit ça. Il lui fait une remontrance. Il dit, mais tu ne sais pas que la Gemara, elle dit ça ? Tu ne sais pas, ça sourd de faire un truc comme ça ? Mon copain, il tout de suite, il retire froid dans la salle. Lo Naïm, de recevoir une remontrance de son Rav, waouh, en plus du Rav Zuckerman, il vaut mieux que le ciel s'ouvre, un éclair te tombe dessus, ça fait moins mal. Le Rav Zuckerman, il fait Chazak. Ça, c'est mercredi, il est midi 20, midi 25. Mercredi matin, il convient à midi. Le soir, il est 22h25. Okay, donc, 10 heures après, ce seront tes cours. Je suis dans un cours du Rav Zuckerman où je n'avais pas trop le droit d'aller, mais j'allais, je me mettais de côté, derrière une poutre. Personne ne voyait, c'est chez lui à la maison. Shalom Israël. Et j'écoutais le cours. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai répété ce qu'il a dit durant tout le cours. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, là, c'est ce que le Rav Zuckerman a dit. Ce même 25 ans, ce même mercredi. Et il rajoute. Et donc, les élèves, ils sont révoltés, parce que c'est des élèves plus gentils que vous. Ils se commencent à crier contre le Rav. Ils disent, mais non, on peut faire des tochachot. Il dit, interdiction de faire des tochachot. On a le droit. Interdiction de faire une tochacha à une personne. On n'est plus du niveau. Le Hafetz Chaim, c'est lui qui fixe les lois au niveau du langage. Et lui, il a fixé que personne ne pouvait faire une tochacha. Et il commence à discuter, à se buter contre les élèves. Les élèves ne sont pas d'accord avec lui. Lui, il répond, etc. etc. Et à un moment donné, ça ne m'est pas venu tout de suite. Mais je me suis rappelé que 10 heures plus tôt, ce même Rav qui est en train de parler, de dire qu'il y a interdiction de faire des tochachot, alors qu'est-ce qui se passe? Là, il y a 10 heures plus tôt, il a fait une tochacha, il a fait une remontrance. Donc comment c'est possible une chose comme ça? Au moment, je vous dis qu'au moment où j'ai pensé à ça, tout de suite le Rav, il s'est tourné vers moi, il a dit « sauf le Rav à son élève ». Sauf le Rav à son élève. Pourquoi c'est comme ça? Le Rav à son élève, c'est comme ça parce que le Rav, c'est enfin, l'élève, il est venu étudier chez le Rav pour pouvoir qu'il lui fasse des torahs. Pour pouvoir qu'il l'amène vers le droit chemin. Et là, le Rav Zuckerman, il a dit, Rav à son élève, s'il y a une proximité entre le Rav et l'élève, vous êtes sadaire. Les parents et les enfants, si les parents, ils ont une bonne relation avec leurs enfants, et leurs enfants, ils ne sont pas assez idiots pour penser que ce que disent les parents, c'est pour faire du mal à leurs enfants. Alors, les parents aussi ont le droit de faire des torahs. Et une amie proche. C'est quoi une amie proche? Une amie avec laquelle je fais tout pour pouvoir m'élever, avancer, etc. Par exemple, tu fais du sport avec une amie. C'est-à-dire, tu fais du sport, tu cours avec elle, tu fais du sport, je sais moi. Et elle va te dire, non, il faut respirer de cette manière, etc. C'est aussi une remontrance. Et toi, tu es avec elle et elle est avec toi pour pouvoir avancer dans le sport. Enfin, pas le droit. Une personne, avec qui tu étudies la Torah, tu veux comprendre. Alors, c'est sûr, tu veux dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Elle est intéressée que tu lui dises, pour justement avancer, pour pouvoir apprendre et comprendre, et pas se tromper. Donc, c'est des conditions très, très réduites. Mais, dans tous les autres cas, bien sûr, il sera totalement interdit de faire des remontrances. Parce que si ça n'éveille pas la personne, et l'homme n'est pas éveillé, lorsque tu lui dis « Atalo Besseder », c'est pas bien. Quand on dit à quelqu'un « T'es pas Besseder », alors la personne, elle, il y a un automatisme d'Afka Afour. Il va essayer d'expliquer pourquoi, même si c'est du mal, c'est Besseder ce qu'il fait. Donc, pour pouvoir éviter, comme on dit, il s'enfonce encore plus, alors on va devoir faire très attention quand on parle à autrui, surtout quand une personne... Elle n'est pas proche de nous à très d'écart de comprendre le fait de réparer son mal. Et on finit par une histoire. Le Rav Kook que vous avez vu. Quand il était à Yafo, la communauté, elle était allée le voir. Ils ont dit Rav, c'était Shabbat. Il a dit Shmuel, le cordonnier, a ouvert son magasin Shabbat. Et toute la communauté a dit On va aller le voir, on va le crier dessus, on va lui dire que c'est pas bien, etc. etc. Le Rav Kook dit, on va aller le voir, mais ce que je fais, exactement ce que je vais faire, vous le faites. Les gens de la communauté disent, ouais, super, on y va tous. Donc toute la Beit Knesset du Rav Kook, à Yafo, se déplace vers le centre-ville de Yafo, où se trouve le magasin de Shmuel. Shmuel le cordonnier, il voit en face de lui toute la Beit Knesset venir vers son magasin, sans avoir peur. Et le Rav Kook de se présenter devant lui et lui dit « Shmuel, Shabbat, Shalom » avec un grand sourire. Et il part. Derrière lui, tous les gens de la communauté s'étaient engagés à faire exactement ce que le Rav fait. Alors lui aussi, il dit « Shabbat, Shalom, Shmuel ». Et le deuxième, Shabbat Shalom. Et le troisième, Shabbat Shalom. Et toute la communauté passe devant Shmuel pour dire Shabbat Shalom. Notez Shabbat. On frappe à la porte du Rav Kook. Qui frappe? Shmuel. Shmuel, il frappe. Et quand il frappe à la porte du Rav, il commence à pleurer. Il lui dit, moi, j'ai ouvert le magasin parce que j'ai des grosses dettes et pour sauver ma famille, etc. J'étais obligé d'ouvrir le Shabbat. Le Rav Kook de lui dire, c'est pas une bracha, c'est pas une bénédiction pour ta famille d'ouvrir le magasin Shabbat. Si tu veux vraiment aider ta famille, si tu veux vraiment aider le peuple d'Israël, alors c'est en respectant le Shabbat. Mais t'inquiète pas, nous on est une communauté, on va venir en aide, on va te venir en aide, de façon à ce que tu vas pouvoir les hit par les. Donc de voir une personne, il ne va pas commencer à dire du mal, dire mais pourquoi tu ne fais pas Shabbat, Shabbat, etc., etc. Et là au contraire, éveiller la personne, l'itraber d'abord. Parce qu'il y a marqué Amitecha. Amitecha, c'est la Gemara, elle dit Imcha b'mizvot, celui qui est avec toi dans les mitzvot. D'abord de sentir le chibou. Quand une personne est très, 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 très proche, même le Rav Kook était proche de tout le monde, même lui, il ne s'est pas permis de faire des tochachot. Et là, comme Aaron HaKohen, il se présentait devant les gens, il leur disait Shalom. Et la personne disait waouh, si Aaron, il savait le quart de ce que je faisais comme mal, jamais il dirait Shalom de cette façon. Et pour pouvoir, tellement il avait honte, cette honte-là dans la personne, lorsqu'il voyait Aaron HaKohen, l'éveillait et lui faisait faire tes choix. Ça, c'est le derrière, la façon comment la génération elle doit changer. Ce n'est pas avec des cris, ce n'est pas avec des contraintes, c'est des avutot à Ava, avec des chaînes de Ava d'amour. Alors, faire une différence, c'est-à-dire ne pas laisser, bon, ça va, ce n'est pas très grave. Le Rav Kook, il n'a pas dit, ce n'est pas grave que Shmuel il a ouvert son magasin Shabbat. Il fait une action. Il agit. Il n'a pas dit, bon, ce n'est pas grave, je vais lire des Tehillim. On va dire, ouais, c'est très triste que Shmuel ouvre son magasin Shabbat. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Non, il a agi. Mais où? Il y a Poel Mitor Shalom. Mais il agissait dans le Shalom. C'est là? Est-ce que vous avez des questions, Mahonora? D'accord. Maintenant, le Mahonora, il va en contradiction avec un Midrash. Qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash, il dit Asara Kabim, Shel Sira Yardou Laola. 10 volumes de discussion, de paroles, sont descendus dans ce monde. Tisha Kabim, il y a 9 volumes, ils ont été donnés à la femme, et un volume à l'homme. Mais là, vous contredisez le Midrash. Ça a l'air? Ok. Vous ne voulez pas montrer que le Midrash a raison, que la parole, elle appartient plus à la femme qu'à l'homme? Ça ne vous motive pas? Bon, je prie qu'on se reste de ces zooms-là, parce que moi, ça m'a pris la tête.
C'était clair.
Oui, c'était clair.
C'est clair. D'accord. Alors, c'est clair. C'est clair. À la semaine prochaine.
Merci.
Vous avez des nouvelles là? Quand est-ce que vous rentrez ou toujours pas?
Toujours pas.
Toujours pas. Mais moi je pense.
Quoi? Bientôt. Mais il y a du nouveau en France? Ils peuvent. Non, en fait, pour l'instant, c'est Israël qui bloque. Hein,
ouais. Mais c'est surtout que le séminaire, il réouvre pas.
Le séminaire, il ne les rouvre pas?
Non, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils disent que c'est trop compliqué.
Regarde, aujourd'hui, moi, je viens de recevoir. D'abord, les Israéliens, je vais m'en revenir. Ils ont ouvert des capsules de 26 élèves. Mais c'est très, très dur. Parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de l'étage où ils se trouvent pendant 14 jours. C'est très, très dur. Mais aujourd'hui, il y a une réunion avec le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on fait des yeshivot et comment ça va se passer. Ça, c'est un premier point hein, par rapport aux gens qui sont déjà en Israël. Mais ceux qui sont en France, pour les ramener en Israël, c'est problématique. Kiren, tu ne peux pas avoir des pistons par tes grands-parents?
Il n'y a pas de pistons, il n'y a pas d'avion.
Ah, il n'y a pas d'avion?
Mais il y a des avions, mais il y en a un tous les... Enfin, c'est hyper compliqué, genre les escales de ce...
Et avant de prendre les avions, il faut faire des demandes.
Il faut que je fasse 14 jours de bidou.
Non, ça, si tu rentres et tu fais 14 jours de bidou, ça va. Mais Il ne laisse pas rentrer, c'est ça le problème.
Bah, il faut faire la demande.
Il faut faire une demande. Comme j'ai que un visa et pas le passeport, il faut.
Ah, si tu fais la demande, tu peux être accepté?
Bah, tu peux, mais c'est compliqué pour l'instant. Ils sont toujours en train de dire non, beaucoup, beaucoup.
Ça, c'est Israël, Ron?
Ouais.
Alors, peut-être que ça peut se débloquer, quoi. Mais ça, ils essayent de débloquer ça, justement. Parce que tous ceux qui ont un visa d'étudiant peuvent.
Oui, ça, ils l'ont déjà, enfin, ils ont déjà annoncé ça. Mais il faut quand même faire la demande.
Oui. Mais moi, pour faire la vie, il faut que j'aille en Israël. Et c'est hyper compliqué, là, parce que plus j'attends, plus ça va être.
Ouais, c'est voyati. Bon, mais ça, déjà, qu'on ait de bonnes nouvelles et qu'on se revoie dans d'autres conditions.
Amen.
Bon,
Amen. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.